Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, va bientôt commencer. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, crise à l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Un reportage réalisé avec des scolaires dans le cadre du festival Jazz à l'Arpe qui vient de se terminer. De la musique, dont une nouveauté, l'épisode 1 d'une série de reportages imaginée par Corentin, volontaire en service civique, qui est parti à la découverte de Rennes 2, la Rouge. Et puis, recommandation, deux propositions des archives départementales. Bienvenue dans l'arène. Et c'est parti, l'émission d'information locale, on la lance toujours avec l'info du jour, une parmi d'autres dans ce qu'on lit ce lundi dans les médias locaux. Aujourd'hui, c'est France 3 Bretagne qui en parle. L'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, eh bien, est en difficulté financière, une situation qualifiée de paradoxale, alors que la France va célébrer l'année des océans en 2025. L'IFREMER, il est né en 1984 et fête donc ses 40 ans cette année, un organisme qui compte quelques 1400 salariés, près de 800 chercheurs. Le siège, il est à Plouzané, dans le Finistère, même si, en tout, ce sont 24 sites qui coexistent à travers les océans du monde. Enfin, l'Institut, il a joué un rôle majeur dans l'exploration des océans et a aujourd'hui d'immenses défis à relever, réchauffement des océans, surpêche ou encore éolienne en mer. La directrice de recherche émérite au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, Françoise Gail, elle observe aujourd'hui un craquage général. Salaire parmi les plus bas du monde de la recherche française, locaux vieillissants et puis des missions surdimensionnées par rapport aux budgets qui sont alloués par plusieurs ministères de tutelle. Résultat, c'est le suivant. La structure voit son déficit atteindre les 9,4 millions d'euros. Et le contexte d'inflation n'a pas aidé. C'est désormais une situation de défaut de paiement qui pourrait se présenter en 2026. Alors, des projets scientifiques ont été abandonnés et un plan de réduction d'effectifs est également envisagé en dernier recours. Interrogé par l'AFP, l'agence France Presse, le ministère de la Recherche a lui évoqué un travail en cours sur le nouveau contrat d'objectifs, de moyens et de performance de cette IFREMER pour la période qui arrive 2024-2028. Après cette info du jour, on continue avec un reportage. Et on prend la direction du Cadran dans le quartier Villejean où deux classes de l'école Nelson Mandela se sont relayées jeudi dernier. Un défi leur était proposé par la ferme de la harpe en plein festival Jazz à l'harpe. C'était de se saisir d'instruments dont ils ne savent pas jouer pour, en quelques heures, former un vrai brass band. Le résultat au micro de Canal B, c'est maintenant. Et on rappelle que le festival Jazz à l'harpe, il s'est terminé hier, dimanche 2 juin.
Alors moi c'est Guillaume Boujard, on m'appelle Boubou, je suis musicien, je suis intermittent depuis une quinzaine d'années. Voilà, surtout pas mal dans le réseau des fanfares et les musiques de rue, mais pas que. Je joue dans les fanfarons par exemple, fanfares de rue, funk, depuis 18 ans, on a atteint la majorité cette année. Et je donne aussi des cours, des ateliers au sein de l'association Trois Regards Léo Lagrange, le mercredi au Cadran.
À quel public, on va dire ?
Alors, j'ai un ensemble, un atelier avec que des enfants, qui peuvent être débutants. On leur prête un instrument l'année et c'est dans les 90 euros l'année. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose de très accessible pour favoriser le plus grand nombre. C'est le mercredi après-midi, donc pour les enfants, vers 15-16 heures. Et ensuite, il y a des ateliers aussi adultes qui sont vraiment sur la thématique des musiques, des fanfares, des brass bands de la Nouvelle-Orléans. Alors, nous nous trouvons au Cadran, dans le quartier Beauregard. Il y a énormément d'animations qui sont proposées au sein de cette association. Et aujourd'hui, en fait, c'est une initiation à tout ce qui est du domaine des instruments à embouchure, les cuivres. Voilà, donc en fait, sur un principe qui n'est pas le nôtre, il appartient, on va dire, à une fanfare qui fait ça depuis plus de 25 ans, qui s'appelle la fanfare de la Touffe. Et le principe est de venir avec suffisamment d'instruments pour le nombre de participants. Ça peut être très familial. Il se trouve qu'aujourd'hui, on fait ça avec des enfants pour qu'ils découvrent un peu ce monde-là. Et on fait une espèce de petit atelier, de stage, quoi, de, pendant une heure, deux heures ou un peu plus. Et le but, c'est qu'à la fin, ils soient capables de jouer dans la fanfare, une petite fanfare improvisée. Alors, c'est très sommaire. Et pour ce faire, on utilise tout un langage de signes, une codification, qui vient de ce qu'on appelle le sound painting, le peindre avec les sons, quoi.
Combien d'enfants, puis de quelles écoles ils viennent, ceux qui sont là aujourd'hui ? Question
piège.
Alors, ils sont
25, et ils viennent de l'école Nelson Mandela.
Nelson Montfort.
Non, pas Nelson Montfort. Merci, Max. Donc, d'une école du quartier, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir leur proposer de participer à partir du début d'année à l'atelier Brass Band Enfant que je mène le mercredi après-midi. C'est vraiment une découverte, une initiation. Ils n'ont jamais joué d'instrument, ils se retrouvent avec un instrument dans les mains, donc avec tout ce que ça veut dire aussi en termes de précaution. Et en une heure et demie, en gros, ils sont capables à la fin de pouvoir faire un petit concert qui ressemble plus à un concert de bruit, mais ça peut être vraiment cool quand même parce que on sent qu'ils sont connectés. Quand ça se passe bien, il y a vraiment, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul musicien alors qu'ils sont 25. Quoi.
Quelle est la première réaction déjà sur le choix des instruments ? Est-ce qu'il peut y avoir des réticences ou au départ des enfants qui, a priori, ne sont pas intéressés ou il y a quand même une curiosité liée à l'âge de ces enfants ?
Non, je crois que ça les intéresse. Ils sont quand même assez curieux. Ils ont envie de tous les essayer, forcément. Parce que là, on est sur des trompettes, des trombones et des tubas, des petits tubas. Parce que c'est quand même des enfants, donc on ne peut pas leur mettre un truc de 15 kilos dans les mains. Mais non, je pense qu'ils ont vraiment tous envie de découvrir, d'essayer quoi. Après, il y a des enfants qui, quand on leur donne une trompette par exemple, c'est un peu plus dur qu'un trombone. La trompette ayant une embouchure un peu plus petite, il faut plus de pression. Et il y en a qui ont plus de mal quoi, à sortir un son. Donc dans ces cas-là, on essaie de les diriger vers un autre instrument.
Le principal défi, ça semble être celui de la concentration et d'être à l'écoute de, on va dire, du chef d'orchestre. Ouais.
Exactement, c'est la grande difficulté. Quand on a réussi ça, bah, le pari il est complètement gagné. C'est de réussir à faire qu'ils soient connectés. C'est tellement nouveau pour eux qu'ils ont envie de jouer tout le temps, de faire n'importe quoi, de souffler fort. Il faut réussir un petit peu à canaliser un peu leur énergie. Et ça fait partie des difficultés de ce truc-là. Ouais. Mais ça passe aussi par bien leur expliquer comment on tient un instrument, comment on produit un son, faire attention aux oreilles des autres, tout ça, quoi. Après, il ne faut pas trop se leurrer. Ça fait quand même un sacré son, un peu Capharnaüm, on peut dire, quand même.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même l'écoute de ce qu'ils jouent du côté du sous-bassophone, un instrument qui peut surprendre ou impressionner pour des enfants qu'ils ne connaissent pas forcément. Ce n'est pas l'instrument le plus connu, je pense, pour ce public-là.
Non, ce n'est pas un instrument qui est très connu. Moi, c'est Baptiste. Moi, je suis musicien intermittent aussi depuis 3 ans. Voilà, et je joue du sous-saphone, donc c'est le gros tuba qu'il y a dans les fanfares qui a le rôle de faire la ligne de basse. Et voilà, moi aussi, je suis principalement dans le milieu des fanfares de rue, les brass bands de la Nouvelle-Orléans. Il a la même forme qu'un tuba, c'est la même embouchure, la même tessiture de notes, tout ça. Mais la seule différence, c'est qu'il a été inventé pour les défilés militaires, pour pouvoir être porté sur l'épaule. Alors effectivement, quand les enfants ils voient ça, ils voient le gros pavillon, l'instrument qui entoure tout notre corps, donc c'est assez impressionnant. Ouais. Mais effectivement, on ne peut pas le donner à des enfants qui ont cet âge-là, parce que ça fait quand même 13 kilos en moyenne. Ça peut vite faire mal au dos.
Il a l'avantage de quand même faire figure d'autorité là sur ce qui vient de se passer.
Ouais, oui, quand il est posé par terre, les enfants font pas attention, ils sont à peu près concentrés, et dès qu'on le met sur l'épaule, effectivement, toute leur attention est dessus. Mais c'est un peu comme tout, une fois qu'ils ont entendu le son que ça faisait, ils passent à autre chose, quoi.
Je voulais vous demander si le genre musical là, que vous amenez auprès de ce public, qui je pense en est pas très auditeur, est-ce que c'est un genre musical accessible d'écoute à ce public-là ?
Ben oui, alors il y a quand même beaucoup de choses dans cette musique-là. Si on parle un peu de la Nouvelle-Orléans par exemple, on est sur les racines du jazz, donc avec tout un répertoire très traditionnel qui est assez figé. Après, maintenant, dans les rues à la Nouvelle-Orléans, ils jouent un répertoire très moderne qui mélange hip-hop, rap, etc. Donc en fait, là tout à l'heure, on a écouté un morceau sur lequel ils ont dansé un peu. Et ben c'est en gros brass band, fanfare, mais avec du chant, du rap, quoi. Donc il y a quand même cette porte d'accès-là, quoi. Je rebondis juste aussi par rapport au truc du rap, c'est que cette année, par exemple, avec le brass, l'atelier brass enfant, il y a un gamin de 12 ans qui a écrit tout un rap. Et du coup, on a écrit un morceau on l'a enregistré, en fait. Ils sont passés derrière un micro chacun, l'un après l'autre. Et ça, bah, en fait, pour moi, c'est vraiment une belle réussite, quoi. Parce que ça veut dire qu'ils se sont vraiment investis, ils se sont impliqués dans quelque chose. Et son texte, il est monstrueux. C'est génial.
En fait, le jazz, il est tellement multiforme qu'on, je pense que la plupart des gens en écoutent sans même savoir que c'est du jazz. Moi, c'est Maxime Rohan et je suis coordinateur à Trois Regards, surtout sur le volet ferme de l'harpe. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on fait jazz à l'harpe, c'est affiché que c'est du jazz, donc les gens s'attendent à écouter du jazz. Et l'été, quand je fais d'autres concerts dans le cadre d'un été à Rennes, et bien en fait, souvent je fais du jazz, sauf que c'est pas marqué jazz dessus. Et en fait, les gens, certains me disent « Ah, c'est quand même bien de faire autre chose que du jazz », alors qu'ils le disent en écoutant justement un concert de jazz. Donc non, le jazz, il est partout. Alors effectivement, c'est pas partout non plus. C'est quand même le jazz, encore plus le jazz de la Nouvelle-Orléans, il est à la racine de quasiment tout aujourd'hui. Un exemple, j'ai appris la semaine dernière que la batterie a été inventée justement par les musiciens de la Nouvelle-Orléans quand ils ont donné naissance au jazz. Et pourtant, la batterie, elle a une image rock aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elle n'a pas une image Nouvelle-Orléans 1900, quoi. Donc non, le jazz, il est partout. C'est une musique parfois qui se mérite si, quand on parle de musique de spécialiste. C'est vrai qu'il y a du jazz qui est plus compliqué à écouter que d'autres. Mais il y a du jazz très populaire, il y a vraiment du jazz pour tous. Et c'est ce qu'on veut montrer, c'est toutes les formes du jazz. Alors la ferme de l'Harpe, c'est le bâtiment un petit peu historique. C'est ouvert depuis 1989 et on développe surtout deux gros secteurs. Le premier secteur qui est très original, c'est des ateliers techniques. Un garage associatif, une forge, un atelier de métallerie-soudure, de la menuiserie, de la plomberie, de l'électricité, de l'électronique. Et on a aussi un gros volet musique avec des cours évidemment, individuels, des cours collectifs, beaucoup de cours collectifs parce que la pratique collective c'est hyper important, en plus d'être beaucoup plus accessible. Des salles de répétition et puis un festival dans l'année qui s'appelle le festival Jazz à la Harpe. Voilà. Et donc on est principalement spécialiste en jazz, on a des profs qui sont généralistes mais tous spécialisés en jazz.
Finalement, le volet action culturelle, là, dont on vient de parler à travers l'atelier du jour, là, de ce jeudi 30 mai, c'est dans l'ADN de Trois Regards et de la Ferme de l'Harpe.
Oui, parce qu'avant tout, nous, on est des animateurs et on travaille sur un quartier. Donc, c'est vrai qu'on s'est rajouté le challenge de faire de Beauregard le quartier du jazz. On y arrive peut-être petit à petit, sans prétention vraiment, mais on met beaucoup d'énergie à proposer des concerts au plus proche des habitants. Mardi 21 mai, on avait par exemple le Big Band de Rennes 2 qui jouait pendant le marché. Donc là, symboliquement, c'est vraiment quelque chose au plus près du public. On a beaucoup de concerts dans des petits squares à droite à gauche. On travaille avec les scolaires, travailler avec les plus anciens. On a associé les habitants pendant toute la saison à préparer une exposition qui présente quelques grandes figures du jazz. Voilà, et c'est l'essence même de notre métier, effectivement. Et puis, on s'est doté d'un outil il y a quelques années maintenant, grâce au Covid, la triplette de Beauregard, qui est un vélo cargo triporteur avec la remorque qui se déplie en scène et qui nous permet vraiment, là encore, d'aller au plus près des habitants. On n'a besoin de rien, on est complètement autonome en énergie et puis ça propose voilà, des scènes qui puissent se déplacer n'importe où très rapidement.
On est dans l'école de Nelson Mandela à Rennes.
Vous me dites quel âge vous avez tous les deux ?
Moi j'ai 10 ans.
Moi j'ai 10 ans.
C'était juste aujourd'hui ou vous avez préparé avant l'atelier qui a lieu aujourd'hui ?
Non, on n'a pas préparé. En fait, il y avait juste une sortie, on ne savait pas qu'on allait jouer des instruments. Ils nous ont dit, vous pouvez jouer des instruments, vous devez choisir. Et moi, j'ai changé plusieurs fois. J'ai essayé le trombone, le tuba, la trompette et j'ai repris la trompette.
Pourquoi la trompette ?
Parce que c'est plus léger et j'aime bien le son.
Et donc, ton instrument à toi ?
Moi, je faisais le trombone parce que... Bah pour moi, ça a l'air assez bien avec les sons que ça produit, c'est grave, c'est bien.
Ah, puis il a une couleur particulière, ton trombone. Hein.
J'aurais aussi pu prendre le noir, et puis aussi parce qu'il y avait l'embarras du choix, et que j'avais déjà ma petite idée dans ma tête qui me disait, tiens, prends le trombone.
Bleu. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez d'un instrument ou est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de jouer de la musique?
Non, moi je fais de la clarinette depuis 2 ans. Au début, c'est difficile de, par exemple, de changer de note, mais quand tu sais faire, c'est plus facile.
Et où est-ce que tu apprends à jouer de la clarinette?
À Torigny, dans l'école de musique de Torigny.
Et tu penses que tu vas continuer?
Oui, je vais continuer.
Ouais. Et toi, est-ce que tu as déjà joué d'un instrument?
Moi, non. Après, quelques fois, ça arrive de taper un peu sur le synthétiseur qu'on a à la maison. Ma sœur a fait du piano à la maison de la harpe, ici, à Rennes. Mais sinon, je n'ai pas vraiment touché à un instrument.
Est-ce que là, ça pourrait te donner envie de commencer?
C'est bien, moi j'aime bien cet instrument, le trombone. Ça a l'air plutôt sympa de le pratiquer. Donc je vais en parler à mes parents.
Alors ce matin, vous trouvez que ça donne quoi là en fin de matinée quand vous entendez ce que tout le monde joue?
Au début, ça faisait pas très du bien aux oreilles, mais après c'était plus joli.
Est-ce que vous avez appris des choses sur les instruments de musique, comment on joue ensemble?
Moi j'ai appris beaucoup sur les signes, parce que je connaissais pas trop ces signes-là.
Pour communiquer oui. Avec le chef d'orchestre?
Oui.
Et ma dernière question, c'est de vous demander, vous, ce que vous écoutez comme musique. Là, vous êtes autour du jazz. Est-ce que c'est une musique que vous connaissiez ou est-ce que vous écoutez des choses très différentes?
J'écoute Maître Gims, Dadju, des choses comme ça. J'aime presque toutes leurs chansons.
Moi, bah, plutôt du rap, hein. Orelsan, Gims, Soumanes, Naps, bah, quelquefois Michael Jackson. Et puis la New Orleans, c'est tout ce qui concernait ça, là, bah, je connaissais déjà un peu parce que l'année dernière, on avait déjà fait une sortie sur le thème du jazz.
À la Nouvelle-Orléans.
Mm-hmm. Mais on n'avait pas fait la même activité. Et je pense que cette séance-là, là, elle a été encore mieux que l'année dernière.
Une recommandation pour les auditeurs d'un truc qui tourne en boucle en ce moment?
Eh ben, en fait, je fais beaucoup la même recommandation depuis le début du festival, et puis là, c'est d'actualité, parce qu'il y a Asielis qui vient de sortir son premier EP qui s'appelle Fleur Bleue. C'est un album de chansons, mais qui est joué que par des musiciens de jazz. Donc évidemment, c'est de la chanson, on va retrouver des touches de jazz, mais ça peut aussi ressembler à du tété ou à du féfé de temps en temps. Il y a des valses. Et le jazz est bien présent toujours au fond, et c'est un album que je ne peux que vous recommander. Il est vraiment magnifique cet album et je pense que ça va faire un carton.
Sur la mer, le soleil s'est couché, il a laissé le ciel orangé, et dans mon cœur une triste pensée, sans lui comment briller. Sur la mer, le soleil s'est couché, et les lumières se sont allumées. De vous revoir, ça j'en ai rêvé. Trop loin de vous, j'ai parfois du mal à respirer. Quand la nuit assombrit mon cœur, je m'ennuie et ne vois plus que dans mes rêves les souvenirs de ma vie. Se sont versés sur mes joues, je ne les ai pas comptées. Je voulais pourtant vous en parler, mais ma gorge s'est nouée. Sans vous, à quoi ça sert de chanter? Sans vous, je croyais tout oublier. Sans vous, pourtant, j'ai réalisé que malgré tout, mes pieds continuaient d'avancer. Thank you. temps à le retrouver. Mais aujourd'hui, je peux vous l'avouer, c'est dans mon cœur qu'il s'est posé.
Azilis sur Canal B avec le morceau « Sans vous ». C'était le choix musical de Maxime Rohan, coordinateur de la Ferme de l'Harpe, qu'on vient d'entendre dans un reportage. Et ce morceau, vous pouvez le retrouver sur un EP « Fleur bleue », c'est son nom. C'est sorti la semaine dernière et c'est le premier disque pour cette musicienne rennaise. Disque qui comprend 6 jolis titres. Vous venez d'en entendre un dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, qui a quitté les réseaux sociaux depuis un petit moment. Désormais, pour suivre le programme de l'émission, il y a une newsletter, une infolettre qui s'appelle le courrier de la reine. Si vous souhaitez vous abonner, rien de plus simple, il suffit de m'envoyer un petit email à l'adresse lucie@canalb.fr et ensuite chaque vendredi, normalement si je suis à l'heure, vous recevrez en fin d'après-midi ce document avec un résumé des sujets abordés dans l'émission. L'émission La Reine, elle continue maintenant avec un second reportage, le premier épisode d'une série imaginée par Corentin Petitclerc. Corentin qui vient de terminer son volontariat en service civique et que je remercie pour ses contributions à l'émission sous forme de reportage mais aussi d'interview. Avant de partir, il s'est intéressé, vous allez l'entendre, à l'université Rennes 2 comme lieu politique à travers des militantismes pluriels. Rennes de la Rouge, premier épisode, le paysage politique.
Rennes 2, La Rouge. Épisode 1, le paysage politique. Quand on arrive dans une fac comme Rennes 2, il est difficile de passer à côté du fait qu'elle est un lieu où se déroulent de nombreuses activités politiques. Affiches, tags, banderoles, tracts dans les amphis sont des choses que l'on voit forcément de près ou de loin en étant étudiant à Rennes 2. Mais si on ne se renseigne pas ou qu'on n'y est simplement pas étudiant, il n'est pas forcément évident de comprendre qui sont les différents acteurs politiques qui gravitent autour de ce lieu. Dans ce premier épisode, j'ai questionné Camille, Ninon et Théo afin de mieux comprendre la composition du paysage politique de cette université.
Je m'appelle Camille, je suis étudiant à la fac de Rennes 2 en langue et je suis en deuxième année et c'est ma troisième année sur la fac. Je me considère comme militant du fait que je m'investis au sein d'un collectif et que j'essaye de faire de mes valeurs politiques en espèce de travail parallèle en dehors de la fac.
Du coup, c'est Théo, je suis étudiant en L3 Histoire, Sciences Politiques à Rennes 2. Je suis aussi dans certaines associations étudiantes depuis déjà 2 voire 3 ans. Je suis élu étudiant en Conseil du FR, Sciences Sociales du coup. Élu étudiant en CFVU, donc Conseil de Formation Vie Étudiante et Universitaire. Et aussi secrétaire général du Conseil de la Vie Étudiante. Je m'investis depuis, on va dire, pas les dernières présidentielles, mais un peu après.
Je m'appelle Ninon, j'ai 29 ans et je suis arrivé à la fac en 2012-2013 et j'en suis parti il y a un an et demi, je dirais.
Est-ce que tu saurais dire quelle a été ta porte d'entrée dans le militantisme ?
Alors ma porte d'entrée dans le militantisme, ça a été l'écologie, parce que j'ai commencé à m'investir quand j'étais pas à Rennes, à un moment où du coup j'avais mis en pause mes études. J'ai commencé à m'investir dans un collectif écolo, et une fois que je suis revenu à Rennes, ma porte d'entrée dans le milieu militant rennais, ça a clairement été la fac, parce que c'était un moment où il y avait des problèmes avec des frais d'inscription, les inscriptions des STAPS, il me semble. Il n'y avait pas assez de profs, du coup tout le monde était en grève. Et il y a eu une assemblée générale à Rennes 2 des étudiants et j'y suis allé et j'ai commencé à m'investir un petit peu dans cet espace. Je me suis rendu dans cet espace parce que je pense que c'est important de lutter collectivement, même si on n'est pas concerné directement par certaines problématiques, parce que dans tous les cas, il y a une question de solidarité à avoir. Et puis, si jamais ça touche certaines personnes autour de nous, ça peut nous toucher à un moment donné ou à un autre.
Déjà, en fait, quand je suis arrivé à la fac, donc il y a 4 ans, j'étais un peu politisé, mais sans plus. Je me suis politisé du coup à la fac, et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai milité, plus ou moins, pas dans mon coin, mais avec, on va dire, les camarades à droite à gauche.
Et est-ce que ton arrivée à la fac a un peu accéléré ta politisation, tu penses ?
Oui, totalement. Enfin, accéléré, oui, carrément. Enfin, je veux dire, sont la fac et lieu de politisation et de politique. En fait, je pense surtout que les enjeux qui sont présents font que tu te politises d'une manière ou d'une autre, comme la précarité étudiante ou quoi que ce soit. Enfin, peu importe l'enjeu, mais voilà.
Moi, quand je suis arrivée à la base, il y avait un syndicat dit traditionnel comme l'UNEF, qui était encore très très fort à l'époque, qui avait un espèce de leadership réformiste sur le monde étudiant, quoi. Bah, ça marchait plutôt bien, même s'ils faisaient pas grand-chose, en fait. Ils avaient beaucoup de gens, ils arrivaient à encarter énormément de gens, très jeunes. Il y avait Solidaires étudiants, mais je les avais jamais vus trop à cette époque-là, parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était peu de temps après la mort de Clément Méric, donc ils s'organisaient plus sur les questions antifascistes, avec des groupes spécifiques antifascistes. Et il y avait la CNT, donc le syndicat anarchiste, et en fait la CNT s'était illustrée dans un combat à ma première année de fac, parce qu'ils avaient un petit local dans un vieux préfabriqué, et en fait on a menacé de leur retirer, la présidence voulait leur retirer parce que bah, ils se présentaient plus aux élections, je sais pas quoi. Et en fait ils ont fait une occupation locale, ils étaient très soutenus par plein de gens, et ça s'est terminé qu'ils avaient fait un concert sauvage dans le hall B un jeudi après-midi, et le lendemain tout le bâtiment avait été fermé parce qu'il y avait eu beaucoup de tags. Je me souviens qu'à l'époque, des gens, même des jeunes communistes, étaient venus les soutenir et avaient commencé à grincer des dents, justement, quand il y avait un peu de dégradation. Et moi, j'étais là, je venais parce que je commençais un peu à discuter avec les jeunes communistes. J'essayais justement de comprendre un peu ce qui se faisait à la fac. J'ai remarqué, par exemple, ce soir-là, que en fait, le paysage me semblait assez sclérosé, finalement, avec des gens qui se connaissaient depuis longtemps et qui ne pouvaient pas du tout se mettre d'accord. Et c'était assez compliqué. Et en fait, il y a des gens donc de ma génération qui se sont dit « Bon, l'UNEF, ils font rien, ils viennent même pas siéger en conseil, ils nous défendent pas vraiment, bah nous, on est un peu issus du monde associatif, on va faire que ça. » Et en fait, ils ont créé l'élan collaboratif. C'était voilà, des gens plein de bonne volonté, je pense, pour une grosse partie. Mais les leaders, entre guillemets, je pense, avaient des envies carriéristes assez fortes. Et en fait, finalement, ils se sont retrouvés à être un groupe dit apolitique, en disant pour les vraies questions, proches aux étudiants et tout. Moi, à cette époque-là, donc fin 2014, il y avait eu la ZAD, il y avait eu plein de choses. Hollande foirait complètement son mandat, on se rendait compte qu'en fait, il n'y avait rien de social du tout dans ce qu'il faisait. Puis en plus, ouais, à la fac, on était là, bah super. L'UNEF et l'élan qui s'embrouillent, nous l'élan, moi et mes amis, en tout cas ça nous convenait pas vraiment parce qu'on était là, bah ouais, mais ça reste des trucs apolitiques un peu merdiques, bon, ils sont gentils, ils essayent, mais enfin, bof quoi. Et du coup, nous à ce moment-là, bah c'est là où on a décidé de faire cette blague-là de l'armée de Dumbledore pour se moquer de l'UNEF. Et en fait, on est arrivé au coude à coude avec l'élan collaboratif, qui le vivait assez mal. On a essayé de faire une com assez drôle aussi, pour que les gens ils s'amusent, parce que ça faisait des années que, bah, vu que tout se sclérosait, l'UNEF, la CNT, Solidaires, finalement, même dans leur communication, c'était pas quelque chose de drôle, quoi. C'était un peu mortifère. Et du coup, 2016, je trouve, a vraiment réimpulsé un truc où, du coup, les syndicats sont mis à, du coup, à avoir plein de gens qui voulaient se mobiliser. Solidaires, par exemple, ils ont eu un très beau renouvellement au moment, à la fin de 2016. Il y a eu beaucoup de gens, même en fait, qui n'étaient pas encartés, qui n'allaient pas dans les organisations, mais qui venaient aux assemblées générales avec vraiment une volonté de faire des choses. J'ai pu découvrir aussi les groupes autonomes que j'avais rencontrés en 2016, pareil, qui se sont retrouvés avec énormément de gens, qui se reconnaissaient pas forcément dans les façons de faire des syndicats, mais qui avaient envie de faire des choses de manière organisée, pas juste affinitaire ou des choses comme ça. Et du coup, c'était assez intéressant. Enfin, il y a eu vraiment un vrai foisonnement après, après 2016.
C'est quoi le paysage politique qui gravite autour de Rennes 2?
Les composantes principales, de toute façon, ça va être déjà l'université en elle-même, qui est une composante politique, de via ses conseils d'administration, via sa présidence. T'as une composante politique qui sont du coup les syndicats, que ce soit l'Union Pirate, Solidaire, la FAB, etc. T'as une composante politique syndicale. T'as une composante politique un peu officielle qui est les étudiants en eux-mêmes, sont une composante politique par leur droit. En fait, c'est un droit d'avoir une représentation, et l'Union Pirate aussi est là pour préserver les droits des étudiants d'ailleurs. C'est la composante de base, genre si t'enlèves les syndicats, étudiants, etc. La seule composante qui reste, en fait, c'est les étudiants eux-mêmes. Et après, tu as toujours des organisations, on va dire, annexes, qui sont pas réellement dans l'organe administratif de Rennes 2, mais du coup, justement, qui émanent de ces étudiants.
Maintenant, du coup, tu dirais qu'il est comment, le paysage?
Moi, ce que j'avais créé, l'armée de Dumbledore, qui s'est transformée en Union Pirate, c'est devenu un espèce de gros monstre, où il y a tellement de gens qui ont des volontés de niveau national, de se mettre en lien avec les autres syndicats, de sûrement à dessein carriériste. Du coup, je trouve que ouais, voilà, ça perd de son charme. Après, ils ont beaucoup de monde quand même, mais finalement, je ne dirais pas que c'est des gens qui militent réellement. Il y en a quelques-uns qui se décarcassent pour proposer des conférences, mettre en place des actions, mais voilà, c'est un tout petit groupe qui peut donner les décisions, et au final, j'ai l'impression ouais, que ça reste aussi un truc plus de socialisation, ce que je peux comprendre quand t'arrives à la fac et que t'as 18 ans. Les groupes autonomes sont très puissants. Après 2016, je trouve qu'il y a vraiment eu une remontada où en fait les gens se sont rendus compte que ah ouais, les groupes autonomes, ça peut être des groupes qui sont pas nécessairement affinitaires, donc t'as pas besoin d'avoir passé 15 entretiens, de connaître la personne depuis 10 ans pour pouvoir t'organiser, essayer de faire des choses. Et du coup, ça fait qu'il y a énormément de gens qui sont venus dans ces groupes et peut-être des fois qui ne restent pas forcément plusieurs mois de suivre, mais qui vont donner un coup de main potentiellement. Et ça a permis aussi de diffuser une espèce de culture de l'autonomie qu'il n'y avait pas avant, je trouve, à la fac. Pas du tout. Donc justement, c'était bah, si tu veux faire de la politique, tu vas dans un syndicat, point barre. Là, ça a changé un petit peu. Et par contre, alors d'autres syndicats comme Solidaire ou la FSE, etc., j'ai l'impression qu'ils ont quasiment complètement disparu du paysage. En fait, ils étaient pris soit entre l'autonomie, soit avec l'Union Pirate, avec une com très conviviale, très branchée et tout. Et en fait, ça leur convenait pas du tout. Et du coup, mais ils se sont repliés sur eux-mêmes. Et je pense qu'ils ont eu du mal à continuer à proposer, à faire des choses et à être de moins en moins. Du coup, maintenant, c'est complètement fermé. De même pour le SLB, d'ailleurs, et la CNT n'existe plus du tout à la fac.
Alors, le paysage politique qui gravite autour de Rennes 2, c'est plutôt un paysage politique autonome, dans mon sens, ou en tout cas, politiquement, c'est ce qui en ressort le plus, c'est ce qui s'exprime le plus, en tout cas. Les assemblées générales de Rennes 2, ce qui s'exprime en termes de pensée politique à l'intérieur, il y a les syndicats étudiants, il y a les partis, genre le NPA, Révolution Permanente, les trotskistes, globalement, qui vont avoir leur discours. Mais ce qui va résonner le plus, ça va être les discours autonomes, de collectifs autonomes qui revendiquent du coup le fait de ne pas être dans des organisations à un niveau national, qui vont revendiquer le fait de dépasser les manières traditionnelles de lutter, et c'est pour ça qu'ils s'organisent en assemblée générale pour que ce soit le plus large possible et pour amener le plus de personnes possible pour diffuser ce genre de pratiques. Le paysage politique de Rennes 2, sinon c'est aussi évidemment l'Union Pirate, parce qu'il faut les mentionner. L'Union Pirate, ça reste quand même une vibe plutôt LFI, plutôt réformiste, plutôt SOSDEM, et c'est eux qui ont une grosse influence, pas dans les assemblées générales de Rennes 2, mais dans la fac en général. Et eux, pour le coup, on n'est pas sur une culture de l'autonomie. Et c'est pas forcément quelque chose qui est en adéquation avec l'Assemblée Générale. D'ailleurs, on les voit pas tant que ça dans les Assemblées Générales, mais c'est important au niveau de la fac, en tout cas.
Est-ce que du coup, tu peux décrire un peu c'est quoi le champ d'action de l'Union Pirate ? Qu'est-ce que c'est ce syndicat ?
C'est un syndicat étudiant majoritairement, de toute façon. Son champ d'action, il se résume pas seulement à l'université 22, vu qu'il est dans d'autres universités en France. Son champ d'action, on va dire, c'est à la fois l'université, mais aussi la ville. L'université, dans le sens au niveau des conseils étudiants. Mais après, son champ d'action s'étend quand on parle de précarité étudiante. C'est pas en soi seulement les étudiants de l'université Rennes 2, je pense, qui vient lors des distributions alimentaires ou même lors des distributions de protection périodique. Mais du coup, le champ d'action s'étend à la fois à l'université, mais aussi au champ de la ville lorsqu'il y a des manifestations et qu'on est présent. Et après, au niveau national aussi, quand il y a une action nationale qui se crée, peu importe l'action, et quand l'Union Pirate y est, je pense que c'est une convergence qui arrive, quoi.
D'un point de vue politique, c'est quoi les objectifs de l'Union Pirate ?
C'est lutter contre la précarité étudiante, lutter contre le gouvernement de Macron et ses réformes, etc. Être écologique, de base, dans ce cas étudiant, c'est majoritairement être là pour ses étudiants. Et après, donc, il y a tout ce qui en découle derrière, quoi.
Qu'est-ce que c'est un groupe autonome pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ?
Large question. Des militants syndicaux qui ont en horreur les autonomes, mais en fait, généralement, ils ne les connaissent pas, vont parler de nébuleuses autonomes. Et en gros, dans leur langage, c'est tout ce qui... tout ce qui ne relève pas d'un parti ou d'un syndicat. Donc en fait, nébuleuse, puis c'est tout le monde dans le même paquet, allez hop. Alors que pas du tout. En fait, moi justement, quand j'ai commencé à militer avec ces gens-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de groupes différents, qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, qu'ils n'avaient pas les mêmes modes d'organisation. Et en fait, finalement, autonome, c'est ça, ça désigne un groupe à part qui n'est pas relié à un parti, à un syndicat. Mais l'autonomie, historiquement, ça vient de l'autonomie italienne. En fait, c'est des communistes révolutionnaires en Italie qui n'étaient pas d'accord avec les chefs du parti et qui voulaient agir directement par eux-mêmes sur les conditions matérielles, sur ce qu'ils subissaient. Et du coup, ils ont été autonomisés finalement du Parti communiste italien. Et pour moi, c'est un peu ça, l'autonomie, même actuellement aujourd'hui, en fait, généralement, c'est des gens qui se revendiquent de vouloir impacter des choses dans la vraie vie, en essayant de faire des actions, en s'organisant de manière concrète. Ça va être autant les groupes affinitaires, où justement, je disais, il faut se connaître depuis 10 ans, vivre ensemble, avoir des comptes communs pour être sûr que c'est pas une poucave ou je sais pas quoi, et d'autres groupes qui vont plutôt être ouverts, essayer de faire des réunions ouvertes pour accueillir le plus de gens possible. Donc en fait c'est ça, c'est très complexe pour moi. Voilà, autonome, les gens généralement quand ils l'emploient, c'est qu'ils se disent que finalement c'est le même grand groupe, alors que pas du tout. C'est assez compliqué, mais ouais, voilà, moi je dirais ça, ouais. Un truc un peu à part, avec aussi une volonté qui est un truc un peu horizontal, et pas justement un bureau central, mais voilà, que tout le monde puisse participer un minimum aux décisions, au moins avoir voix au chapitre. Qui serait pas forcément la même chose ouais, dans un parti, un syndicat avec un bureau national, des choses comme ça.
T'as un peu décrit ça avec un monde autonome et un monde syndical. Est-ce que c'est des mondes qui s'opposent? Est-ce qu'ils composent des fois ensemble?
Bah moi je suis pour la composition en tout cas, je trouve. Et je sais qu'à certains moments ça s'est fait, notamment en 2016, hein, la mise en place des assemblées générales. C'était à la proposition de personnes de la JC, une réunion où les groupes autonomes avaient été invités, qui n'étaient jamais reconnus, pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait là, il se passe ça, c'est grave, est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur certaines choses? Et ils ont réussi. Et pour moi, le succès entre guillemets de ce mouvement là même si on a perdu, mais qui a politisé plein de gens, c'était parce qu'il y avait un minimum de respect les uns les autres, et de se dire bon d'accord, on n'est pas d'accord là-dessus, mais on arrive à être d'accord là-dessus et à faire des choses ensemble. Du coup, ça donne un truc un peu plus fort, quoi. Et justement, pour moi, c'est pas antinomique du tout. Même si t'es pas d'accord sur certains trucs, bah, quand un groupe va subir telle ou telle chose, bah, tu peux manifester ton soutien. Et moi aussi, ce qui me plaisait beaucoup à Rennes 2, et moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est qu'en fait, bah, certes, j'étais dans un syndicat, mais en fait, j'allais à plein de réunions de groupes autonomes, et en fait, je m'organisais dans différents endroits. Et je sais que, par exemple, dans certains groupes, j'ai vu des gens jeunes de l'Union Pirate qui étaient très contents d'être à l'Union Pirate et de trouver justement un truc de socialisation, un petit peu de conscientisation sur les questions spécifiquement étudiantes, bah, être contents d'aller dans des groupes autonomes et de voir un peu plus large justement sur certaines choses. Alors c'est peut-être de moins en moins, mais il y en a quand même. Et du coup, je trouve, enfin pour moi c'est pas antinomique, disons, c'est différent, mais ça se complète bien, quoi, dans un rapport de force. Moi après voilà, hein, j'ai siégé en conseil, j'estime que là où on peut grappiller des choses, il faut le faire. Et mais évidemment que je me dis pas que c'est en conseil que je vais changer la société et faire la révolution, mais pour moi c'est nécessaire pour pas perdre plus que ce qu'on a déjà perdu, quoi.
Il y a un assez bon dialogue en vrai à Rennes. J'entends les histoires de Nantes où, par exemple, où on a l'impression que tout le monde veut se taper dessus. En vrai, Rennes, les gens, ils arrivent plutôt bien à discuter, et c'est important de le faire, parce que bah, sinon tu peux pas avancer si jamais tu te coupes du reste du monde militant, parce que enfin on a besoin de force, on a besoin d'énergie. Déjà qu'on n'est pas majoritaire en général dans le pays, si jamais entre nous on fait des murs absolus, enfin on va pas arriver à grand chose. Et donc ça se passe plutôt bien, il y a forcément des désaccords politiques qui s'expriment, et des fois ça se gueule dessus un peu en nagé, mais à part des cas extrêmes, je crois que ça c'est jamais parti vraiment très loin. À la limite, les désaccords interperso, quand les gens peuvent pas se saquer, ça peut mal se passer, mais politiquement, j'ai l'impression que la composition se fait assez bien.
Est-ce que tu penses qu'en arrivant à l'université, là, genre à la rentrée prochaine, c'est plus facile d'entrer dans le monde militant, de trouver des choses à faire, de se mobiliser, que quand toi t'es arrivé?
Je pense que oui, parce que notamment il y a eu un gros travail de fait sur la com pour ouvrir le truc aux gens le plus possible. Par exemple, bah, l'Union Pirate dont je parlais, Moi, j'avais jamais vu un syndicat qui avait une com comme ça avant. Enfin, c'était un truc vraiment pour te toucher, même si tu connais rien, même si c'est pas un truc du tout de spécialiste. Même les groupes autonomes, en fait, comme à Rennes 2, il y a eu la défense collective, bah, c'était des grandes affiches avec un truc graphique assez fort, un truc d'invitation de venir aussi, de se dire bah, la réunion elle est publique, elle est ouverte à tout le monde, venez à telle heure et tout machin. Que moi, quand je suis arrivée à la fac, c'était pas du tout ça. Enfin, ils avaient leurs panneaux syndicaux, mais c'était leurs revendications et c'était en fait très laborieux de réussir à rentrer en contact avec eux. À part bah, si tu voyais sur les tables de presse, ils étaient pas trop gênés de te répondre, quoi. Parce que ouais, il y avait un truc, je pense, vraiment de spécialiste. Et je pense qu'avant, c'était la même aussi pour les groupes autonomes, avec tout l'aspect affinitaire et aussi bah, la peur de la répression, je pense. Qui faisait un peu ça, bah du coup, oui, tu fais confiance qu'il y a des gens que tu connais depuis très longtemps, et du coup, quand t'es jeune, que tu viens d'arriver, que tu sors du lycée, bah je pense un peu ce truc aussi de culpabilisation, de se dire « Ah, j'y connais rien, je suis pas assez malin, j'ai pas suffisamment lu et tout. » Et je trouve que maintenant, certains groupes politiques, en tout cas, sont justement dans un truc en disant « Eh, mais c'est pas grave, l'important, c'est de faire des choses ou d'essayer, et puis voilà, mais on s'en fiche que t'aies pas lu Marx, Engels ou je sais pas quoi, quoi. » Enfin, je pense que c'est plus facile après. Je pense que, par contre, c'est plus difficile de ne pas tomber dans une routine, justement, parce que c'est devenu tellement des gros trucs, finalement, mais ce qui est bien, parce que c'est ça qui fait avoir de la force. Bah en fait c'est difficile de se dire ouais je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme groupe, comment ça fonctionne et tout. Finalement tu restes dans ton confort avec les gens avec qui t'es d'accord et du coup je trouve ça un peu dommage des fois parce que ça évite un peu la remise en question qui me semble pourtant essentielle en politique quoi.
Your feet.
Anna Rossa avec le titre What a Day sur Canal B. C'était une nouveauté musicale sélectionnée par notre programmateur, j'ai nommé Yann. Un titre à retrouver sur l'album Take a Look at the Sea. C'est sorti le 19 avril chez Howlin' Banana. Un des titres qui forme le deuxième album pour Paul Verwaerd, un musicien anglais qui est passé par l'Espagne, le Brésil et qui est aujourd'hui en France avec son projet. Vous venez de l'entendre dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, qui se termine toujours avec quelques conseils de sortie. Et oui, la recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission, des conseils d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Aujourd'hui, deux propositions qui nous viennent des archives départementales dans le cadre des mémoires de la Seconde Guerre mondiale en Ille-et-Vilaine. D'abord, il y a la série documentaire 100 jours en été, une chronique quotidienne de la bataille de Normandie à découvrir tous les jours à partir depuis le 2 juin et jusqu'au 30 août sur le compte Facebook des archives départementale d'Ille-et-Vilaine. Cette série documentaire, elle a été réalisée en 2014 avec la participation notamment du Mémorial de Caen et de France Télévisions. 90 épisodes de 3 minutes qui mêlent archives et images de fiction réalisées sur la base de récits collectés. Dans l'idée de raconter ce qui fut l'un des affrontements majeurs de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Normandie, moment clé dans la libération de la France et de l'Europe de l'Ouest. Deuxième événement, toujours à vivre aux archives cette semaine, une rencontre sous forme de table ronde intitulée « Résister en Ille-et-Vilaine ». Ça se passe jeudi 6 juin à partir de 18h, donc aux archives qui sont situées dans le quartier Beauregard. Et autour de la table, il y aura des élus, un chercheur, des citoyens avec l'association Bruce Citoyenneté, puis aussi un archiviste pour explorer donc ce thème de la résistance. L'entrée est gratuite pour y assister, mais sur réservation. Pour plus d'infos, il y a le site archives.ille-et-vilaine.fr. L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.